Eteri Pagava, une étoile française venue de Géorgie.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Une demoiselle de 93 ans venue sur la pointe des pieds jusqu'à RFI, est-ce possible? Mais c'est tellement possible que ce monument de la danse classique aurait pu, en quelques entrechats, nous rejoindre jusqu'au studio 43 dans Sol majeur, pas peu fière d'accueillir Eteri Pagava. Un nom mythique venu de Géorgie, avec dans sa généalogie un grand-père qui aura marqué ô combien l'histoire de ce pays. Pagava, un nom en forme de diadème aussi, avec au bout de ses chaussons d'anciennes danseuses étoiles, l'empreinte de toute une époque, celle de Serge Liffard, Jean Cocteau, Roland Petit, Maurice Béjart, Salvador Dali, Jacques Douai, bref, celle du surréalisme, des ballets russes et même des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. N'est-ce pas, Eteri Pagava? Bonjour.
Bonjour.
On va décoder tout ça en sol majeur, non sans préciser que votre longévité n'a d'égal que votre amour de la danse. Dire qu'il y a peu, vous, directrice de la compagnie des ballets Eteri Pagava, vous fêtiez votre jubilé pour vos 90 ans. Et puis dire aussi qu'hier, à 13 ans, vous étiez la plus jeune danseuse étoile aux côtés de Roland Petit.
Vous dites qu'il y a des danseurs jeunes, je crois qu'il y a même une danseuse qui est extrêmement jeune. Mademoiselle Eteri Pagava.
Ah oui, Eteri, bien
sûr. Hier, c'est-à-dire en 1945.
Je voudrais que vous me disiez, depuis quand dansez-vous?
Je danse depuis l'âge de 5 ans.
J'ai 5 ans, mais quel professeur avez-vous?
Madame Egorova.
Et vous avez dansé déjà sur d'autres scènes qu'aux Champs-Élysées?
Ah, bien sûr.
Par exemple?
Je dansais à la Salle Pleyel, à Sarah Bernard, l'Opéra, l'Opéra Comique.
Ah oui, tout ça est très brillant.
Et ma grande étoile est Mlle Pagava.
Voilà, nous sommes dans les coulisses du Théâtre des Champs-Élysées à Paris en 1945 pour le ballet Les Forains, chorégraphié pour la première fois par un certain Roland Petit. Roland Petit, alors je dis ça pour les très jeunes, c'est le mari de Montreuil, grand plume. Juste une petite référence. Et c'est une archive de la radiodiffusion française qui a donc gravé votre voix d'enfant, Eteri Pagava. Qu'est-ce qui vous revient comme ça, immédiatement, comme image ou comme sensation quand vous entendez votre voix de 13 ans?
Comme toujours, c'est l'amour de la danse. Je me souviens un peu comme si c'était hier, en fait. Nous étions dans les coulisses, c'était notre première, Les Forains. C'était un départ très important parce que Roland Petit commençait sa compagnie, les ballets des Champs-Élysées. On ne savait pas du tout comment le public allait nous accueillir. Mais moi, dans mes 13 ans, je suis étonnée de m'entendre. J'étais très sûre de moi et très calme.
Très professionnelle.
Très professionnelle. C'était ma passion et vivre sans danser, je ne pouvais pas.
Vous auriez pu, Eteri, naître à Tbilissi, oui, en Géorgie. Vous auriez pu être plus russophone que francophone. Donc, est-ce que vous êtes prête pour commencer cet en sol majeur pour un question-réponse à la sauce en sol majeur? Vous êtes prête?
Je vais essayer.
En sol majeur, version originale, non sous-titrée.
Eteri Pagava, qu'est-ce qu'il y a de plus géorgien en vous?
Chemi Kverana Sakartvelo, Chemi Bavua No Jordania, Romiro Didi Presidenti, Da Kartulitsekwa Kartulisimrera Sakartvelo.
Quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez à Tbilissi, la capitale de la Géorgie?
Jotsamovedi Tbilissi, movedi pirvelat samozdashvichi. Arasode sanviravi sakartveloshi. Da vitsekve Chabukyantan. Chabukyani dzalyan didi motsekvavi kartveli, vitsekve operashi. Da vnakhe pirvelat chemi bebia. Imitsom rom Bebia es mamas deda, Arasodes Aravnacher, Adrenas Chemi Mama, Movida Barishi, Jotsa Chinesis Isiro. Da Kartfalebi Isse Argiro Nachva Tfilisis Irvelat, Tsegwa am Operashi, Jabukiantan, Da Telizala Didi Didi Succeiro.
Bah écoutez, il suffit de demander pour vous avoir en géorgien, cher Eteri Pagava. Vous m'avez dit oui, on va essayer, on va essayer. C'est un petit jeu justement pour se promener dans le feuilleté de cette langue première, de cette langue géorgienne. Comment vous vous sentez dans cette langue? Apparemment très très à l'aise.
Je manque un peu de pratique, mais c'est sûr que quand j'ai été en Géorgie pendant 3 semaines, j'ai parlé qu'en géorgien. Donc c'était complètement revenu, puisque ma langue maternelle, donc le géorgien, ça a été... en même temps que le français, peut-être même encore avant.
Oui. Vous auriez pu, il y aurait pu avoir une petite place pour la langue russe, puisque votre mère, Asma, qui était poétesse, était la fille elle-même d'une moscovite.
Ma grand-mère, effectivement, était d'origine russe. Mais pour dire la vérité, on était avant tout très géorgien, parce que la Russie est un pays formidable avec des grands danseurs. Mais malheureusement, la politique... à ce moment-là, et même plus tard, était très difficile.
Donc vous faisiez de la résistance linguistique
oui,
à la
voilà.
maison. Donc on pourrait avoir une ou deux réponses de ce que je vous ai posé comme question et vous avez eu la gentillesse de bien vouloir y répondre en géorgien. Qu'est-ce que vous faites, la première chose que vous faites quand vous arrivez là-bas en Géorgie et notamment à Tbilissi? Qu'est-ce que vous faites, Eteri Pagava?
Quand je suis arrivée là-bas, je le dis quand même, c'était pour danser, ce qui était formidable, avec un très grand danseur, Djaboukiani, très connu là-bas. Le train à 4 heures de retard, pas le train, pardon, c'était l'avion. Et quand on atterrit, je me dis, à 2 heures du matin, il n'y aura personne. Tous les Géorgiens étaient là à m'attendre des heures, Djaboukiani lui-même, tout le monde. Et aussi, les personnes qui vénéraient mon grand-père étaient là. Et j'étais accueillie comme une reine.
Sakvari sakvas vetsebdi Verno kheda kavgulho Uva moskvidi vchigodi Sada chalchemo suliko Uva moskvidi vchigodi Sada chalchemo suliko Ekalshi vardi shevnishne Oblatroma mosuliko Kulis matskali itkit chavdi Shechomar achar suliko Kulis matskali itkit chavdi Shechomar achar suliko Sukarna buli pulubuli Potlepshi bimalu
Je vous vois danser avec la tête, Eteri Pagava. Pour un sol majeur, c'est vrai qu'on a rouvert les tiroirs familiaux. Quelle est cette merveille de polyphonie géorgienne sur RFI?
Alors, c'est la chanson qui s'appelle Souliko. Souliko veut dire petite âme. Il faut dire que les chants géorgiens sont magnifiques.
Alors ça, c'est un chant, j'imagine, qui aurait pu plaire à Babou, je crois. C'est votre grand-père, un
oui.
certain Noé Nicolozzi Giordania. C'est un monsieur immense.
Immense.
Pas seulement pour vous, pour mm-hmm. l'histoire du pays.
Moi, je vous avouerai que je l'apparente un petit peu au général de Gaulle, que j'admire beaucoup. Parce que c'était quelqu'un de très désintéressé et qui voulait vraiment le bien du pays. Quand il était nommé président, il est resté 3 ans parce qu'après ça a été envahi par les communistes, enfin la Géorgie. Il a quand même fait, c'était en 21 je crois, le vote des femmes, qui était quand même formidable. La réforme agraire, il a interdit le travail pour les enfants. Il a ouvert aussi un centre culturel. Il a fait énormément de choses dans un temps de laps de temps très court. Enfin, il lisait beaucoup Platon et tout ça.
C'est un journaliste de formation.
Voilà. C'était un socialiste, socialiste.
Mais alors, socialiste, tendance menchévique. Est-ce que vous savez la nuance avec bolchévique?
Justement, c'est le contraire des bolcheviques. Parce que mon grand-père, quand il allait à l'école en Géorgie, il y avait aussi un certain Staline qui allait aussi à l'école.
Qui était géorgien lui-même.
Et qui était géorgien. Alors, fait quand même beaucoup de mal, Staline, c'est sûr, ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup d'émigrés géorgiens, qu'on a dû partir. Malgré tout, la France a accueilli officiellement la Géorgie, ce qui est quand même bien. Pour dire la vérité, nous allions beaucoup à Leuville, qui est juste à côté de Paris, où il y avait pas mal de Géorgiens qui n'avaient pas des moyens, etc. Et on était là-bas.
C'est là où il y avait le château des Géorgiens.
Voilà, c'est ça.
Où a été abrité le premier gouvernement géorgien en exil.
Exactement. Et aussi les gens qui étaient retraités, qui n'avaient pas de moyens. Et beaucoup d'enfants dont je faisais partie. On apprenait les chants géorgiens et on l'appelait la petite Géorgie.
Qui appelait-on Sourire d'Avril dans la famille?
C'était mon père. En Géorgie, quand il y a la table, il y a un chef de table, ça s'appelle Tamada, qui mène la danse, enfin, j'allais dire. Et on fait des toasts, pas comme ici, un grand discours, le chef de table, et l'autre réponse comme la poésie. Et qui était ce chef de table renommé? C'était mon père.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, moi, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais.
Et oui, Thierry, les hommes de votre vie ont été nombreux. Il y a eu ce grand-père magnifique, votre père, Sourire d'Avril, mais il y a eu aussi votre mari, en la personne de Jacques Douai, pour en sol majeur. Jacques Douai, premier interprète des Feuilles mortes en 1947. Alors pour ceux qui ne connaissent que la version de Juliette Gréco ou de Yves Montand, on a un petit peu rajouté celle d'Eric Clapton, version jazz, et celle de Fayrouz, la grande, la belle, la voix du Liban. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce Jacques Douai pour les jeunes générations qui ne le connaissent pas?
Ça a été merveilleux de le rencontrer parce qu'on avait les mêmes idées, parce qu'il a vraiment écumé le monde pour qu'on découvre la chanson française.
Il était très exigeant.
Très exigeant. Il était aussi un militant. Et il avait ce propos que j'avais aussi, c'est que tous les milieux sociaux puissent accéder à l'art. Et c'est pourquoi que quand on s'est rencontrés, on a en quelque sorte mis sur pied un théâtre. Et nous avons reçu 300 000 enfants. Et du coup, c'était essentiel parce qu'il n'y a que 4,5% de la population qui va voir des spectacles. Et on a eu des enfants qui n'avaient jamais entendu de musique classique, jamais vu de danse. Ils étaient émerveillés. Et pour moi et pour lui, l'éducation par là est primordiale.
C'est toujours d'actualité, hein? Pour dire aussi, avec ces feuilles mortes qu'on vient rapidement d'écouter pour en sol majeur, que Etheri Pagava, vous êtes né donc à Paris en 1932, donc entre les polyphonies géorgiennes et la culture française.
Absolument.
Le Petit Prince, les fables de La Fontaine.
Ah oui, j'adore. Alors, je vous dirais, j'adorais des comédiens comme Gérard Philippe, qui parle de Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux cultures.
Ça change quoi, au fond, dans votre perception à la fois du monde et peut-être même de votre art qui est la danse?
Ça vous agrandit l'esprit.
Descendez. On fait deux groupes encore. Et... Hop. Les pieds à serrer, là. Oui. Et le regard. Hop. Et... Un, deux. Hop. Bien. Hop. Et... Allez, on y va. Hop. Tant de cuisses, glissade, jetée, ballottée, tombez pas de bourré le regard. Hop. Bien.
M. Roman, ne t'occupe pas du rond-jambe. Suis par la pensée tes bras.
M.
De manière à ce que quand ce sera en haut,
comme
ta jambe sera tenue par les bras.
Mère patrie.
Est-il exagéré de dire, Eteri Pagava, que si patrie il y a dans votre cœur, la patrie numéro un reste la danse?
Non, la danse est ma vie. Et là, en entendant le cours, je continue à donner des cours maintenant.
Oui.
Et nous aurons d'ailleurs une masterclass, un stage, le 15 et 16 juillet.
Rien ne vous arrête.
Rien ne m'arrête. Ouvert, pas seulement aux danseurs qui dansent très bien, mais... danseur tout niveau pour l'amour de la danse.
Donc pour dire que quand vous avez une passion chevillée au corps comme la danse, rien ne vous arrête, pas même une histoire d'amour possible avec un certain Ali Khan, le prince Ali Khan, qui je crois vous a courtisé.
Oui, c'était Sadrika en fait. On avait 16 ans, 15-16 ans. J'étais trois là, 15 ans c'est vrai. Ali Khan c'était son frère. Et l'Aga Khan... adorait la danse. Il venait à tous les spectacles, envoyait des grands bouquets de fleurs, des chocolats et tout ça.
Rappelez-nous, donc c'était un prince britannique d'origine pakistanaise, ça, loin.
Oui, oui. Et donc, il était un amoureux de la danse et son fils charmant de 16 ans. Maman disait, non, le père Aga Khan disait à maman, mon fils attend toujours votre fille. Il m'a fait la cour, c'est vrai, gentiment. Et il venait à tous les spectacles. Il est même venu quand j'étais dansée en Amérique, à New York. Mais disons que c'était sur un plan romantique, voilà.
Mais votre cœur, de toute façon, était ailleurs. Que vous évoque ce nocturne de Chopin, Eteri ?
J'adore la musique classique. Ce morceau, effectivement, mon premier rôle sur scène, j'avais 11 ans. J'étais à l'école de Madame Egorova, je n'ai pas cité son nom, mais c'est très important, un très grand professeur, mon professeur, où il y avait beaucoup d'étoiles, dont Jeannine Chara et Roland Petit. Qui me voit ?
Futur grand chorégraphe.
Futur très grand chorégraphe. Ils m'ont vu danser, ils faisaient des récitals à la salle Pleyel, extraordinaire, venez Cocteau et tous ces gens-là. Et là, en me voyant, ils me disent « Eteri, tu vas venir danser avec nous à la salle Pleyel ». À 11 ans, c'est incroyable, c'était mes vrais débuts. Et c'était sur la musique du Chopin, justement. Et du coup, je suis venue à 11 ans danser le Petit Amour. J'ai vu la presse, on a beaucoup parlé, en disant « un minuscule Petit Amour sur celle qui dansait ». Et moi, la chose que je me souviens beaucoup, c'est qu'à la fin, pour saluer, ce n'est pas des fleurs qu'on m'a apportées, mais une poupée. Et comme à l'époque, on avait très peu de jouets, c'était l'occupation et tout ça, on était dans des conditions très difficiles. J'ajoute que quand on allait aux cours de danse, il n'y avait pas de chauffage. On ne faisait pas attention à danser.
Mais d'aussi loin que vous vous souvenez, Eteri, vous avez toujours dansé.
À 4 ans, je dansais dans la rue à Samoins.
Mais vous dansiez sur quoi dans la rue ?
Et ben dans la rue, maman, elle chantait et moi, je dansais en marchant comme ça. Arrive, passe le curé du village qui dit, mais Votre petite fille, elle est incroyable. Je fais une fête. Est-ce qu'elle peut venir participer ? Alors, je viens à 4 ans. J'organise la scène. Je fais ma chorégraphie. Et là.
Et la chorégraphie, c'était quoi ?
Alors, la chorégraphie, c'était pas une danse simplement abstraite, mais ça racontait une histoire. Alors, j'ai fait une danse guerrière. J'ai fait la danse de la libellule. J'ai fait enfin, le rêve. Et du coup, mais ce qui a joué beaucoup dans mon destin quand même, c'est que dans la salle, par hasard, il y avait les pianistes Serge Diffard.
L'immense
Serge Diffard, à qui je dois beaucoup, qui m'a d'ailleurs nommée en quelque sorte danseuse étoile à 15 ans, que j'ai connue à 6 ans et demi. Ensuite, par hasard, il se retrouve à Paris quand j'ai 15 ans et je danse avec qui comme partenaire ? Maurice Béjart à l'époque.
Wow.
Et il est dans la salle. Mmh. Le lendemain, il téléphone en disant « Petite, tu vas venir à Monte-Carlo remplacer la grande danseuse qui a trop à danser, Yvette Chauviret. » J'arrive et je danse ses grands ballets à 15 ans.
Est-ce que ça vous dirait d'entendre la voix de Serge Liffard et sa manière de rouler les airs ?
Avec plaisir.
Suite en blanc, c'est un ballet qui montre les valeurs magnifiques de ce ballet, de ce corps de ballet de l'Opéra de Paris, meilleur ballet de la France, de l'Europe et peut-être du monde.
Oh oui, ça je le pense.
Donc, premier ballet, il vous montre la technique. C'est le ballet où on danse. Avec naturellement mon style néoclassique où l'arabesque est déviée dans tous les sens, c'est pas seulement arabesque académique.
Une archive INA sur RFI qui vous fait dire quand vous entendez cette voix, et Thierry, la voix de Liffard, que c'était la voix de votre destin.
Je suis très émue, c'était la voix de mon destin et en plus je l'admirais énormément parce que ma première visite à l'opéra, j'avais 6 ans. Et qu'est-ce que j'ai vu sur scène ? Liffard danser mon ballet préféré que j'allais danser plus tard, Gisèle.
Pourquoi c'était votre ballet préféré, Gisèle ?
Toute danseuse rêve de danser Gisèle. Et on a la chance, quand on le fait, d'avoir 2 actes. Dans le premier acte, on exprime la joie parce qu'elle rencontre le prince, elle ne sait pas qu'il est prince. Après, la folie parce qu'elle perd la tête quand elle sait qu'il l'a trompée. Et ensuite, le deuxième acte magnifique où elle devient comme une ombre. Donc, c'est magnifique comme répertoire. Quand j'avais 15 ans, en tournée en Angleterre avec le ballet du Marquis de Cuevas, arrive le maître de ballet et me dit « Ce soir, tu danses Gisèle ». Je dis « Quoi ?» La danseuse, elle ne peut pas. Elle a mal au pied, elle ne peut pas le danser. Tu dois la remplacer au pied levé. J'ai dansé Gisèle. Il courait d'une coulisse à l'autre pour me dire les entrées sorties parce que je n'avais pas répété avec le corps de ballet. Et ça a été un triomphe. Et voilà pourquoi Gisèle est tellement important aussi pour moi.
Serge Liffard qui vous présente comme, je cite, le modèle de l'expressivité nécessaire aux techniciens de la danse pour devenir un artiste. Le mot-clé, là, c'est quoi ? C'est l'expressivité ?
C'est l'expressivité. La technique était un moyen indispensable. Mais le but, c'est l'expression.
Le but, c'est d'oublier la technique.
Exactement. Pour oublier la technique, il faut la travailler beaucoup. À un moment donné, je dis que le corps devient plus intelligent que la tête. La technique de la danse est tellement rentrée dans le corps que vous n'y pensez plus. À partir de là, la danse, c'est l'expression. Ça exprime la musique, ça exprime une histoire. Et l'émotion est essentielle. Je sais que quand je dansais la somnambule de Balanchine, on me l'avait dit, les gens pleuraient dans la salle.
Maître de la danse néoclassique.
Néoclassique.
Alors pour les néophytes comme nous, qu'est-ce que c'est que la danse néoclassique ?
C'est-à-dire que c'est une technique qui est tout à fait comme le classique, mais disons, je pourrais le montrer, mais on ne le verrait pas visuellement, si on prend une arabesque, eh bien on la décale. Enfin, quand on décale le mouvement,
on la déstructure.
Voilà. Ça reste classique, mais ça va plus dans l'espace, c'est plus expressif aussi, plus moderne, j'allais dire. Voilà.
Alors, une petite remarque en sol majeur. Quand je regarde ce nom de Serge Liffard et que je fouille un petit peu dans sa biographie, il est né Sergueï Mikhailovitch Liffard à Kiev, en Ukraine. Oui. Sans parler de Tania Balashova ou de Lyubov Legorova, dont vous vous êtes inspirée pour votre méthode d'enseignante, d'ailleurs, Etheri. Mais est-ce à dire que l'excellence de la danse française, elle s'est bâtie sur le talent des Russes et des Ukrainiens?
Alors, je ne dirais pas ça, parce qu'il ne faut pas oublier que on dit souvent que la France a été la patrie de la danse, parce que c'était Louis XIV qui aimait beaucoup la danse et qui dansait très bien, d'ailleurs.
Oui.
Je ne sais pas. Mais je pense.
On n'a pas d'archives, alors c'est difficile.
Oui, on n'a pas d'archives. Mais ce qui est important, c'est qu'il a fondé l'Académie de la danse et de la musique. Et surtout, il y avait un nommé Beauchamp qui a baptisé les pas de la danse, qui sont encore aujourd'hui valables. C'est-à-dire que dans le monde entier où vous allez, les pas de danse sont dits en français. En Russie, ailleurs. Glissade, assemblée, changement de pied, c'est toujours en français. Donc la France a aussi contribué à la naissance de la danse. Mm-hmm. Quelquefois, on fait des barrières. Mais à mon avis, prenons la danse avec un grand D.
Vous remarquerez quand même que c'est troublant. Quand on parle des grands maîtres de la danse française, en fait, on s'aperçoit que ces grands experts viennent d'ailleurs.
Il ne faut pas oublier la chose quand même importante, c'est que Petit Pas, le grand chorégraphe qui a monté la Belle Aurore Dormante et tout ça, il était français. Mm-hmm. Il est allé en Russie. Mm-hmm, mm-hmm. Donc lui, ça a été le contraire.
Donc il y a un dialogue franco-russe, en tout cas, qui a donné cette excellence.
Cela dit, il faut dire que les Russes, au point de vue danse, ils ont une école formidable quand même. Les bras, l'expression et tout ça. À l'école française, tout ça, ça se rencontre en fin de compte. C'est pas tellement, tellement coupé. Et moi, je vous dirais que la danse contemporaine, je ne suis pas du tout contre. Quand c'est bien, il y en a comme en classique, quelquefois, c'est pas bien. Quand c'est bien, moi, je trouve que c'est bien.
Quand est-ce que c'est pas bien, par exemple, la danse classique ?
Quand elle est mal dansée.
Oui, d'accord. Je comprends le concept, mais...
Eh bien, il faut beaucoup éviter, parce que c'est un peu comme quand on écrit un livre. On écoute la musique, on imagine des pas. Après, on va répéter avec les danseurs et on regarde, on dit, mais ça ne va pas du tout, ça, c'est pas bon. Il faut recommencer. D'abord, il faut réadapter la chorégraphie dans le temps, dans l'espace. Évidemment, ça part de l'imaginaire. Mais après l'imaginaire, il faut le mettre en place. Par exemple, je prendrais Maurice Béjart, le très grand chorégraphe, avec qui j'ai dansé beaucoup. C'était intéressant, parce que quand il était jeune, il ne savait pas encore les rudiments de la chorégraphie. Et quand il a commencé à faire le Sacre du Printemps et tous ses grands ballets, là, j'ai dit, il a appris son métier dans l'espace.
Donc en fait, il faut faire rentrer l'imaginaire avec un chausse-pied, mais sans que ça se sente, dans la grammaire, dans une grammaire...
Dans une grammaire
suffit de le faire,
de pas, d'espace aussi, d'expression, et aussi de contraste. Quelquefois, on dit « ça va pas », il fait toujours les mêmes mouvements, ça va pas. Donc il faut trouver un contraste, et surtout... être inspiré par la musique et la musicalité.
Alors justement, j'aimerais qu'on essaye quelque chose pour en sol majeur, faire une sorte d'arrêt sur image sur vous, Etheri Pagava, et sur le solo de votre vie, lorsque vous dansiez Roméo et Juliette de Tchaïkovski. On va fermer les yeux et imaginer à partir de vos mots à vous, la Juliette que vous avez été. On essaye ?
Alors, la scène est dans l'obscurité. Roméo et Juliette sont déjà sur scène, dans le noir. La lumière se monte et on les voit tous les deux face à face. C'est la découverte de l'un de l'autre. Ensuite, ils marchent presque dos à dos, comme s'ils se cherchaient. Et à un moment donné, leurs regards se croisent. Et là, c'est vraiment la rencontre. Et dans cette première partie, il va y avoir toujours un contraste entre les rencontres et les hésitations. Et en même temps, elle va sortir, il va sortir, ils vont réapparaître. Et à un moment donné, ça va être ce qu'on appelle le coup de foudre. Ils vont se retrouver, d'ailleurs dans la pose, lui est à genoux, elle est en petite arabesque, il lui baise la main. Et là, on sent que c'est la grande rencontre.
Merci, Thierry Pagava. C'est comme si on était un petit peu dans la salle à vous regarder dans ce Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Alors, est-ce que vous diriez que votre dada, si j'ose dire, dans les rôles que vous avez eu à interpréter, Thierry, ce sont essentiellement des rôles romantiques ?
Non, en fait, j'ai dansé des choses différentes. Évidemment, des rôles romantiques, mais je vois par exemple le rôle de Antinéa, l'Atlantide. C'était un rôle tout à fait opposé. C'était le livre de Pierre Benoît. Et donc, Antinéa, elle était très belle, mais assez, très cruelle, en fait, puisqu'on connaît un peu l'histoire.
Rappelez-nous.
Alors, je voulais faire quand même une parenthèse. Pierre Benoît était venu voir le spectacle. Il a dit « J'ai trouvé mon Antinéa », ce qui était un beau compliment. Eh bien, Antinéa était dans un palais. Et pour dire la vérité, elle séduisait les hommes. Mais après, ça se finissait très mal. À la fin, ils étaient tués. Mais alors, ce qui était intéressant dans ça, c'était pas un ballet, c'était un opéra. Et la seule personne qui dansait, c'était Antinéa. Et c'est ça qui était intéressant. C'était la musique de Tomasi, la chorégraphie de Combes. Eux chantaient. Mais moi, je répondais avec des mouvements de danse. Ce qui faisait qu'il y avait des duos entre un chanteur et la danseuse. Mmh. Et qu'à la fin, elles se retrouvaient un peu démoniaques. Mais ça a été très intéressant de mettre les deux techniques ensemble. Or, ça, c'était un rôle complètement opposé à Roméo et Juliette, ou des rôles romantiques que j'ai pu danser, parce que c'était le rôle de la femme fatale.
Voilà, mais dites donc quand même vos héroïnes de ballet classique dans l'ensemble. On a cité Juliette,
oui.
Elle meurt. Odette, dans le lac des cygnes, elle n'est pas très en forme non plus. Non, Gisèle, on ne sait pas non plus, elle meurt ou elle danse jusqu'à la mort, hein, dépendant des versions. Elles ont toutes des destins tragiques.
Alors, heureusement, il y avait des choses gaies que j'ai dansées, comme La fille mal gardée.
Mais vous n'auriez pas souhaité, je ne sais pas si vous étiez un peu féministe, c'était peut-être pas exactement le terme à l'époque, mais en tout cas, une grande féminité, désirer avoir des rôles un petit peu plus de caractère, où la femme n'est pas toujours en train de dépérir, de mourir, ou bien d'être l'incarnation de la beauté, de la virginité,
On ne pensait pas à ça. En fait, la femme, elle avait des rôles très forts. Et du coup.
Souvent perçue du point de vue masculin.
Non, parce qu'il y a eu quand même des chorégraphes féminines. Par exemple, Janine Charles, dont on ne parle pas assez, qui était ma petite mère dans la danse, c'était Roland Petit, mon petit père, a fait des magnifiques chorégraphies qui devraient être, je le dis, à l'opéra, à mon avis. C'était vraiment un grand chorégraphe. Il y a eu aussi Nijinska, la sœur de Nijinsky, qui a fait des chorégraphies. Non, il n'y avait pas de racisme entre la femme et l'homme. Non, c'était très...
Le sexisme, disons.
Sexisme, ouais, c'est mieux que le racisme, c'est vrai. Donc, on ne faisait pas tellement attention. On était tous, comment dire, pris par l'amour de la danse.
Monsieur Salvador Dali, on affirme souvent que vous êtes l'un des deux peintres les plus célèbres au monde. Êtes-vous de cet avis?
Je suis absolument persuadé que je suis le plus important de tous en ce moment.
Et que pensez-vous de Pablo Picasso?
J'ai très souvent exprimé d'une façon très catégorique que je considère que c'est, après moi, le plus grand génie qui existe, mais c'est un génie de type opposé au mien, c'est-à-dire c'est un génie destructif, hétérogène et anarchiste, tandis que mon génie à moi, et de plus en plus près de ceux des anges.
Jean Cocteau en 1951 à propos de Stravinsky sur France Culture.
Les ballets russes ont eu sur moi la plus grande influence. De loin, les ballets russes, c'est un feu d'artifice. On se rend très mal compte de ce qui s'est passé à l'époque. Évidemment, Nijinsky sautait plus haut que tout le monde. C'est entendu, il était du domaine du feu d'artifice, mais sa lueur continue. Nijinsky ne ressemblait à personne et il ne valait pas par le saut, pas plus qu'un grand boxeur ne vaut par le coup de poing. Il était auréolé d'un privilège. il pensait, il, et son, sa grande œuvre, ça a été de faire le Sacre du Printemps, de faire la chorégraphie du Sacre du Printemps qui a bouleversé tout le monde, et même celle de l'Après-midi d'un faune. Déjà, il déplaisait, il plaisait, il déplaisait.
À Biarritz, Louis XV a conduit le bal grâce à la munificence du marquis de Cuevas. Costumé par Balmain en simple dieu de la nature, le marquis reçoit. Merleau-Biron anime le tableau du singe jardinier. Les photographes sont très talons rouges. Et les policiers ont bonne mine, costumés en laquais. Sancho Panza, c'est la célèbre commère américaine Elsa Maxwell sur un âne, ou un âne sous Elsa Maxwell.
Difficile de résumer en deux minutes ce Paris des années 50, Paris patrimonial de la culture. Hein. À ce moment-là, c'était un petit voyage dans le temps avec ces voix qui ont peuplé vos jours et vos nuits, Éthéri. Qui était ce marquis de Cuevas qu'on vient d'entendre? Oui, ouais. Archivina, c'était le journal des actualités françaises, ça s'entend, hein, en 1953. Qui était-il et quelle incidence il a eu sur votre vie?
Alors, on doit beaucoup de reconnaissance au marquis de Cuevas. Parce que c'était le dernier mécène pour la danse. J'ai eu la chance, quand j'ai dansé à Monte-Carlo, le ballet de Liffard, quand il m'avait demandé qui était dans la salle ce jour-là, le marquis de Cuevas, qui a pris la compagnie, qui m'a vu danser dans Suite en blanc. Et l'été, je reçois donc un télégramme. Et du coup, cette année, je fais ma première saison à Paris et je vous engage comme danseuse étoile. J'avais 15 ans. Le marquis de Cuevas adorait la danse.
Il était cubain d'origine
Il était cubain, oui. Et l'argent n'était pas de lui, c'était sa femme, Rothschild d'ailleurs. Mais lui, il avait une adoration pour la danse. Alors, il y avait 40 danseurs, des grandes étoiles. Il faisait appel aux grands peintres, comme Dali, où on a dansé. Moi, j'ai dansé Tristan Fou avec les décors de Dali. Il y avait aussi Léonore Fini. Il faisait appel à des grands compositeurs, etc. Il invitait les grands chorégraphes. On était toujours 2-3 mois à Monte-Carlo sans voyager. Et venaient Balanchine, Miacine, Lichine, etc. Liffard, évidemment. Après, on faisait le tour du monde. On a été à Londres, on a été au Caire, on était partout.
Et
on
L'âge d'or. Toute une époque hein, où vous croisez, je crois, Ingrid Bergman, Rosella Hightower, Léonard Fini, Marie Laurencin. Je laisse les auditeurs découvrir en un clic. Est-ce que vous êtes du genre, Éthéri, à penser que c'était mieux avant?
Non, je ne voudrais pas être comme... Enfin, des personnes qui disent « Ah oui, le temps avant, c'était mieux ». Je pense que chaque temps a sa valeur. C'est sûr que c'était extraordinaire d'avoir quand même un mécène. Difficile à trouver, là, maintenant.
Mais il n'y a pas que ça. Mais vous aviez du Dali, du Picasso, du Cocteau, etc. Il y avait une concentration d'artistes et d'intellectuels exceptionnelle.
Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même, avant que je danse, même, il y a eu les ballets russes de Diaghilev. Diaghilev qui était le grand. Et qui avait effectivement introduit tous les arts réunis. Picasso, etc. et tout ça.
Donc c'était mieux avant, alors?
Il y a quand même des belles choses, ne dénigrons pas. Mais disons que c'était différent, c'était peut-être plus riche. Parce que maintenant, c'est vrai que je déplore, les costumes souvent ne sont pas très existants. La peinture ne rentre pas tellement dans le ballet. Et en même temps, il peut y avoir des choses incroyables aussi. Je veux rester optimiste et ne pas se dire « Oh là là, c'était mieux avant ». Ça ne sert à rien, le regret d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est vrai que c'était formidable.
Quelle heure est-il dans votre vie?
Éthéri.
J'ai pas d'heure.
Vous non plus?
Moi non plus.
pas l'heure de raccrocher en tout cas. Hein. C'est pas à l'ordre du jour puisque vous dansez toujours. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement chaque jour ?
Alors, je fais ce que je faisais il y a des années. D'abord, une barre au sol. Ce n'est pas une barre au sol ordinaire, c'est une barre qui travaille les abdominaux, le dos, les bras. Parce que quand on a des abdominaux, on est beaucoup plus léger pour les jambes. Et c'est ça qui m'aide d'ailleurs à pouvoir danser. Et ensuite, je fais les exercices de la barre traditionnelle que mes professeurs m'ont appris. Mais justement, le corps est porté par les muscles et en même temps vous permet d'être, comment dire, libre de ses bras. Parce que les bras, c'est la mélodie. Les bras, c'est la mélodie. Par contre, c'est un peu comme un arbre, le corps, c'est le tronc. Et justement, peut-être une chose qui se perd quand même actuellement avec la technique, c'est les bras et les épaulements.
Mmh. Et ça, perd la mélodie.
Dans la mélodie, voilà. Donc, je travaille dans ce sens-là, comme si j'étais à continuer ma carrière de danseuse, mais ce qui me permet non pas de danser des ballets, mais à montrer les mouvements,
oui,
et pas être assis sur une chaise.
Est-ce que votre corps de 93 ans, Éthérie, vous fait découvrir d'autres sensations ?
Eh ben, le corps de 93 ans, par exemple, je sens que entre 80 et 90 ans, il y a quand même une différence. Parce que j'ai fait mon jubilé à 80 ans. Quand je me vois, j'étais là, une jeunesse à 80 ans. Absolument, c'est vrai. Et pour danser, j'en faisais tout. Et après, à 93 ans, c'est plus difficile. Mais c'est là où il ne faut pas se rendre. Tant que je peux, je continuerai.
Me vient à l'esprit la phrase de Clint Eastwood, qui doit avoir 92, 95, je ne sais plus exactement, qui dit « Surtout ne pas laisser entrer le vieux ».
Voilà.
J'adore cette phrase.
Oui, j'adore cette phrase et je suis bien d'accord. Oui.
Le mouvement, en tout cas, ça aura été toute votre vie. Est-ce que vous suivez, j'en profite pour cette question, est-ce que vous le suivez, ce mouvement du monde, et notamment le monde de la culture, avec cette entrée, on va dire, timide de la diversité de ces corps noirs, de ces corps racisés, comme on dit, dans le monde de la danse, qui a toujours été très blanc et très discriminant. Est-ce que vous suivez ce mouvement-là ?
Mais ça existe depuis longtemps, ce ballet noir. Par exemple, je me rappelle, enfin, il y a pas mal d'années, il y avait des États-Unis, ils étaient venus danser cette magnifique compagnie Alvina Ailey.
Oui, mais ça, c'est aux États-Unis.
Ils sont venus danser en France.
Oui,
quand
d'accord,
même.
Mais en France, on a quand même du mal. Vous voyez, l'Opéra de Paris accueille aujourd'hui seulement Guillaume Diop. C'est le premier danseur étoile métisse.
Je sais.
Est-ce que ça vous réjouit ?
Ça me réjouit d'autant plus que moi, dans ma compagnie, j'avais un très bon danseur de couleur, il y a des années de ça, quand j'étais au Théâtre du Jardin. Enfin, moi, ça m'est égal la couleur. Ce qui compte, c'est de bien danser. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs. J'avais écrit, quelqu'un m'a dit, vous avez raison, qu'il soit blanc, noir, enfin, je ne sais pas, jaune, si vous voulez. Ça n'a pas tellement d'importance. Il faut surtout bien danser. Mais c'est bien, il faut dépasser ça, il faut dépasser. Il ne faut pas se mettre des frontières. Mais ça glisse aussi dans la vie courante, vous le savez bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Les êtres humains, quand on voit toutes ces guerres, on est, on vit, on aime, on meurt. On est tous dans le même panier. Pourquoi faire tellement de guerres et de ségrégations ? C'est dramatique, hélas.
Il n'y a pas de grande tâche difficile qui ne puisse être décomposée en petites tâches faciles. Le bonheur est une manière d'être, or les manières s'apprennent. Souviens-toi qu'il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. Je me suis amusée à relever deux, trois citations d'un certain Mathieu Ricard, devenu moine bouddhiste tibétain, que vous lisez, et surtout vous lisez son plaidoyer pour la danse. Pour la danse, c'est un beau lapsus pour vous. Plaidoyer pour le bonheur.
J'aime beaucoup Mathieu Ricard et aussi les propos de Alain,
le philosophe.
Oui, voilà. Il y en a un qui me revient de Alain. Il raconte comment un homme invité à un dîner, il ne mange jamais plus de viande, c'est fini. Et tout d'un coup, il mange de la viande. Et Le propos de ça, c'est que chacun suit son personnage. Il pense qu'il ne pouvait pas manger de la viande, mais il pouvait très bien le faire. Et souvent, il arrive dans la vie, quelquefois, qu'on a ce que j'appelle des peurs créées par soi-même, où on pense que ça, on ne peut pas le faire, mais personne n'a dit que vous ne pouvez pas le faire. C'est vous qui le dites. Et aussi bien Mathieu Ricard que Alain démontrent cela, des idées fausses qui ne sont pas des vérités, dont on peut justement, en réfléchissant, se débarrasser. C'est la même chose, voir Mathieu Ricard qui raconte, il était dans le désert et il y a deux personnes qu'il connaît bien qui viennent le voir. Il y avait de l'eau, enfin, c'est un très mauvais chemin. Une vient, elle dit « Oh, ce chemin, c'est terrible, on ne veut pas, on se mouille les pieds. » Arrive une autre toute joyeuse. « Oh, mais c'est drôle, on sautille. » Même événement, deux visions des choses. Et ça, c'est essentiel de la façon de voir la vie.
Merci infiniment. Je vous laisse vous transformer à nouveau en cygne sur Tchaïkovski, cher Éric Pagava. Il faut juste l'imagination. Merci en tout cas de m'avoir accordé ce pas de deux pour En sol majeur. Au générique de cet En sol majeur consacré à Éric Pagava, quelques foulures, mais aussi quelques piquets, quelques fouettés, et puis vous êtes prié de réviser votre leçon de danse classique pour les nuls, ou bien de réécouter cet En sol majeur avec Thibaut Baduel et Yasmine Chouaki, tous les deux en collant, vous pensez. Réécoutez tout ça sur l'application Pure Radio. Dans un instant, votre journal sur RFI.